Abba, Père, Amen, en vérité. Ephata, ouvre-toi. Rabouni, Maître. Maranatha, viens Seigneur. Autant de mots araméens qui nous sont familiers parce que nous les retrouvons régulièrement dans nos Bibles, accompagnés de leurs traductions. Autant de mots araméens, mais à l'exception d'un qui a curieusement disparu, Mammon. Mammon remplacé dans la plupart des Bibles et des traductions par argent, avec une majuscule. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, fait-on dire à Jésus dans l'évangile de Saint-Luc, quand il dit très précisément « avec le mammon de l'injustice ». De même que dans l'évangile de Matthieu, il ne dit pas « vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Il dit « vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon ». Mammon, un des princes de ce monde, l'argent roi ou l'argent Dieu, contre qui, d'une certaine façon, contre l'esprit matérialiste, cette fête, ce dimanche du Christ roi de l'univers, a été instituée, du seul vrai roi. « Ainsi donc tu es roi, » dit Pilate à Jésus au moment de sa passion. Et Jésus répond, « C'est toi-même qui le dis. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Et il le dit sans cesse, « Et garde mes paroles. » Et il nous faut prendre au sérieux les paroles du Christ que nous venons d'entendre dans cette parabole, y compris les paroles les plus dures sur le châtiment éternel, sur le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, c'est-à-dire sur les démons et les archanges du diable, c'est-à-dire les princes des ténèbres, dont Mammon n'est pas le moindre. Au XVe siècle, Sainte Françoise Romaine en a eu des visions terribles. Elle en a ressorti un traité de l'enfer, où elle voit justement Mammon et les autres princes en bonne place. Sainte Françoise Romaine, au XVe siècle, a vécu, comme régulièrement tout au long de l'histoire, des épidémies de peste, qui étaient quand même autre chose que la pandémie actuelle. On n'arrêtait pas les messes pour autant. On savait et on répétait que les sacrements sont nécessaires au salut. Et quand on disait que la messe est vitale, on le mettait en œuvre. Alors le diable est malin. Il a compris la leçon, l'Écriture dit qu'il sait très bien se déguiser en ange de lumière. Et il se présente désormais comme le prince de la santé à tout prix. Prince de la santé à tout prix, l'expression a heurté une de mes lectrices à qui je confie toujours mes homélies avant de vous les donner. Elle dit, alors disons le prince de la santé du corps plutôt que de l'âme. Il faut pouvoir garder en tête la parole du Christ, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la gêne l'âme aussi bien que le corps. Et justement à propos de cette parabole, l'un de vous m'a demandé cette semaine, mais que deviennent les damnés? Que deviennent les damnés? À la messe, dans le canon romain, la plus ancienne prière eucharistique, nous disons « Arrache-nous à la damnation, c'est notre espérance, c'est ce que nous demandons au Seigneur. » Notre espérance, bien sûr, c'est d'être du bon côté. La question est de savoir si c'est non seulement vraiment notre volonté, mais aussi notre façon de vivre, notre mode de vie. Et en vue de la confession que nous aurons à vivre d'ici Noël, on pourrait reprendre justement cette parabole avec ce que la tradition appelle les œuvres de miséricorde corporelle. Ces six actions, ces six verbes auxquels l'Église a ajouté « ensevelir les morts » et en n'oubliant pas les œuvres de miséricorde spirituelle. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et les morts. Priez Dieu pour les vivants et les morts. Que se passera-t-il En effet, que se passera-t-il si, en espérant que nous soyons du bon côté parmi les bénis, aux côtés du Christ, des personnes que nous aimons se retrouvent de l'autre? Est-ce que nos supplications suffiront pour les sauver? C'est une question grave. Qu'en est-il de la possibilité d'être séparés pour toujours d'un certain nombre de personnes que nous aimons? Une femme tout à fait remarquable que j'avais accompagnée dans les derniers mois de son existence, de sa maladie, qui avait laissé Dieu de côté toute sa vie et qui angoissait comme toute personne devant la mort, mais peut-être encore plus. À cette femme, j'avais dit, je n'irai pas sans vous. Est-ce que c'était une promesse inconsidérée? Le seul fait pour moi de penser à elle, c'est le signe qu'elle a, on va dire encore, toujours besoin de mes prières, que je dois continuer à prier pour elle. Je vous la confie, Martine. Mais est-ce que nous croyons vraiment que nos prières pour les défunts sont non seulement nécessaires, mais efficaces? Que se passera-t-il si des personnes que nous aimons se retrouvent, après la mort, envoyées au châtiment éternel? Comment pourrions-nous être heureux dans la joie, la paix et la lumière? Alors il faut écarter la solution de facilité, l'idée que tout le monde sera sauvé. C'est une hérésie qui a un nom dans l'histoire qui s'appelle l'apocatastase. Et si elle a été considérée comme hérétique, c'est parce que cette parabole dit très exactement le contraire. Mais cette parabole ne dit pas non plus, comme on a tendance à le penser aujourd'hui, que finalement la seule chose qui compte, ça aurait été l'attention aux autres, la générosité, le partage, une forme d'engagement social. Cette parabole ne contredit pas la nécessité des sacrements et de la prière, au contraire. Elle dit très exactement pourquoi nous venons à la messe, pour qu'en recevant en nous le Christ, nous apprenions à le reconnaître chez nos frères, les plus petits, les plus mal aimés. Alors, mystère de cette parabole, ils s'étonnent tous, les uns comme les autres. C'était toi, comme s'ils ne savaient pas. Comme s'ils ne savaient pas quoi? Que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ? Que si nous sommes frères, c'est dans et par le Christ? Que se passera-t-il si des proches choisissent, malgré nos prières, de refuser Dieu? Je fais l'hypothèse que nous ne nous en apercevrons pas, que d'une certaine façon, elles se seront effacées de notre cœur, que dans la purification que nous connaîtrons tous, notre propre purification pour prendre place auprès du Christ, dans la gloire de Dieu, s'effacera de notre esprit toute complaisance pour ce qui est contraire au règne du Christ, pour ce qui est incompatible avec sa gloire et sa pureté. Il faut cesser d'opposer la charité et les sacrements, parce que la source est la même, c'est le Christ, et que les deux, la charité et les sacrements sont nécessaires au salut. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ces paroles sont vitales, pas virtuelles, vitales. Les sacrements, comme la charité, sont nécessaires au salut.